Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Lorsque nous enregistrons cette émission, nous sommes le 3 décembre 2024 et donc nous sommes en plein milieu d'une procédure potentielle de censure du gouvernement, puisque hier le gouvernement a, comment dire, a mis en jeu sa responsabilité par le biais du 49.3. Donc là, le 49.3, l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, on rappelle ce que c'est sur un budget, enfin sur le vote d'une loi de finances de la sécurité sociale ou d'une loi de finances tout court, vous mettez votre responsabilité en jeu, c'est-à-dire que s'il n'y a pas plus de la moitié des votes de, enfin la majorité absolue de l'Assemblée nationale, alors le budget, enfin la loi sur le budget passe toute seule. Donc il n'y a pas tellement de loi, enfin il n'y a pas de vote directement sur la loi de financement, mais comme le gouvernement n'est pas renversé, la loi passe automatiquement. Et là, ce serait la première fois qu'il y a vraiment une chance que le gouvernement saute.
Depuis 1962,
ça fait donc 62 ans qu'il n'y a pas eu de censure du gouvernement. D'ailleurs, pas que par 49.3, mais que ce soit d'une manière générale, il n'y a pas de censure par le biais de
Et quand il y a de le l'article gouvernement 49. Avait été censuré, De Gaulle avait dissous l'Assemblée immédiatement.
Ouais.
Il y avait des élections et il avait remporté les élections triomphalement. C'était les supporters de la 4ème République qui essayaient de se débarrasser de De Gaulle en 62.
Absolument. C'est-à-dire que c'était un peu la configuration inverse de ce qu'il y a aujourd'hui. Il y avait le président qui avait son premier ministre, le premier ministre qui avait son gouvernement, et le président était quand même largement plébiscité par le peuple. Et l'Assemblée n'était pas
aussi...
Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, derrière, donc, il a pu renommer Pompidou, et donc il y a eu un gouvernement Pompidou après un gouvernement Pompidou. Cette fois-ci, c'est assez différent. Il y a 53% des Français qui voudraient censurer le gouvernement. Donc c'est que 53%. Alors après, je dis, c'est les chiffres d'il y a 5 jours. Donc ça veut dire que la question, elle a dû être posée il y a 10 jours. Depuis, c'est quand même en augmentation constante. Donc je dis 53%, mais à l'heure actuelle, on est peut-être au-dessus de 60. Et c'est surtout, c'est très disparate parce que les partisans, que ce soit de La République En Marche, enfin des centristes ou des LR, ils sont pas tellement pour la censure du gouvernement, alors que c'est 67% des votants, des électeurs du RN et 88% des électeurs du Nouveau Front Populaire. Donc là, on a vraiment toute l'opposition est très très favorable. Les électeurs de l'opposition, en tout cas, sont très favorables à une censure du gouvernement. Et alors, cette censure du gouvernement, est-ce que vous la souhaitez ?
Est-ce que je la souhaite ? Oui, parce que Barnier avait une fenêtre de tir quand il a été nommé qui était tout à fait intéressante. Il aurait pu s'attaquer au vrai problème, c'est-à-dire les dépenses de l'État, et il a choisi de faire encore une fois du gloui-boulga, où on mélange les dépenses, les recettes, l'augmentation des dépenses, etc. Donc il a choisi de ne pas prendre de décision et de continuer avec les imbécilités qui ont cours depuis 50 ans. Donc il faut se débarrasser de Barnier, il a montré son incompétence, quoi.
Oui.
Peut-être un jour on aura un gars qui aura vraiment du courage, quoi.
Oui, c'est ce que je pense aussi. Je n'arrive pas à comprendre, en fait, parce que Barnier lui-même est allé dire l'autre jour aux 20h de TF1 que maintenant nos taux d'intérêt de notre dette à 10 ans, donc c'est le taux de référence, était supérieur à ceux de la Grèce.
Ça me paraît une très bonne idée, parce que plus les taux d'intérêt monteront, plus ces imbéciles sont obligés de couper les dépenses.
Oui.
Donc moi, je suis tout à fait partisan qu'ils montent un bon coup,
oui,
et qu'on liquide toute cette classe dépensière qui ne servait à rien, et qu'enfin on arrive à traiter le problème qui est la croissance des dépenses de l'État. Et tant que les taux d'intérêt ne seront pas arrivés à 10, je crois qu'ils n'arriveront pas à s'en occuper, quoi.
Oui,
ils sont tous seulement en train d'essayer de bosser en touche pour jamais faire de peine au peuple.
Ouais.
Mais il faut croire, moi je suis persuadé que le peuple attend, si j'ose dire, un discours en disant c'est du sang et des larmes, les mecs.
Ouais.
Il y en a marre de nous raconter des histoires, il y en a marre de dire que c'est pas de notre faute. Non, c'est de votre faute, vous avez été incompétent, et maintenant il va falloir qu'on paye la note. Et Barnier, il a tout fait, sauf il a débité le bromure habituel qu'il fallait avoir que tout le monde paye en même temps, sauf les gars dans les administrations centrales. Lui, il continue à péter dans la soie. Donc,
ouais.
Non, mais Barnier, c'était le nul et non avenu, quoi.
Ouais, parce que effectivement, alors Déjà, je me dis par rapport au profil de Michel Barnier, le type a fait plus de 40 ans de carrière politique quand même depuis son
50,
son plus jeune âge. Voilà, donc il est quand même plus proche de la fin que du début. A priori, ce sera son dernier poste politique,
en tout cas, on peut le souhaiter.
On peut le souhaiter. Et donc, par conséquent, en principe, il n'avait rien à perdre.
Mais c'est exactement ça. C'est quand on se dit tiens, il y a un gars qui a rien à perdre. Qui n'a pas été vraiment dans tous ces coups-là, il était à l'Europe, donc peut-être va-t-il faire preuve de discernement, de caractère, de courage, et puis non, pas du tout, il est retombé dans le fromage blanc qu'il a toujours été, quoi.
Ouais. Et par conséquent, ce que je comprends pas, bon, après, il y a une notion en politique qui, à mon avis, est très très mal comprise par les politiques eux-mêmes, c'est la notion de réforme impopulaire. C'est-à-dire qu'il y a impopularité et impopularité. Il y a ce qui est impopulaire auprès de la masse et il y a ce qui est impopulaire auprès de certains groupes d'intérêt. Et ça, clairement, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que, justement, je pense que des réformes libérales, aujourd'hui, elles seraient assez largement plébiscitées par la majorité des Français. Mais en revanche,
c'est pas libéral, si vous voulez, c'est simplement... Arrêter de gaspiller l'argent de l'État, c'est-à-dire supprimer le Conseil économique et social, 250 millions d'euros qui servent à rien, arrêter les subventions à la presse qui coûtent plus d'1,3 milliard d'euros, qui maintiennent en vie des trucs comme l'Elysée, qui ont pas, ou la Croix, qui ont pas de raison d'être, supprimer toutes les grandes, toutes les hauts conseils, les grands conseils, ou je sais pas, tous ces trucs dans lesquels il y a des centaines de gars qui foutent rien et qui ont des voitures de fonction. Donc, c'était simplement dire aux gens, c'est votre argent, on va enfin le gérer en bon père de famille, ouais. Et il a même pas eu le courage de ça, donc il continue à distribuer des prébendes en pensant que c'est la distribution des prébendes, très prébendes, qui va le rendre populaire et le faire élire. Mais ça fait 40 ans, moi, tous mes copains politiques, chaque fois que je leur dis qu'il faudrait couper dans les dépenses, ils me disent on peut pas parce qu'on va, on gagnera pas les élections, moyennant quoi, ils sont battus à chaque fois et la France s'enfonce de plus en plus. Ouais. Donc ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est quand vous parlez à ces hommes politiques, ils raisonnent jamais en termes de bien commun, de ce dont la France a besoin, ils raisonnent en termes de est-ce que je serai réélu. C'est la seule chose qui les intéresse.
Oui. Et en plus de ça, il le pense mal.
S'il avait du courage, il serait peut-être élu.
Oui, absolument.
C'est pas impossible.
Absolument. Et aujourd'hui, justement, ceux qui arrivent au pouvoir et qui se maintiennent avec une bonne popularité, c'est justement ceux qui font preuve d'une certaine honnêteté, qui disent, voilà, ça va pas forcément être très facile. Il y a plus un rond. Au bout d'un moment, il va falloir serrer la ceinture et être responsable.
C'est Xavier Milei en Argentine.
C'est les types comme Bukele.
Voilà, mais je pense honnêtement, si vous voulez, que 80% du pognon dépensé n'importe comment en France est dépensé par 20% des types. Ouais. C'est la loi de Pareto qui s'applique aux dépenses, comme pour tout d'ailleurs. Donc, si on pouvait taper sur ces 20%, je crois que les 80% pousseraient des cris d'enthousiasme, quoi.
Oui. C'est une certitude.
Vous avez 20% d'escrocs dans une population, ben, vous les liquidez, vous essayez de leur distribuer du pognon, puis le reste en est...
Bien sûr, on voit bien que chaque année, les dépenses publiques augmentent, et pourtant, on ne sent aucune différence au quotidien. On n'a pas l'impression de... Au contraire, on a l'impression d'être...
Mais rien ne marche.
Pressurisé par, justement, les taxes, les impôts.
Pas, vous êtes à Marseille, vous pouvez pas... Vous êtes à Paris, vous pouvez pas sortir le soir. Enfin, bref, non, mais c'est n'importe quoi. Donc, ils font pas leur boulot, ils filent du pognon, les gars, c'est...
Ouais. Et alors certains disent, notamment c'est surtout les centristes qui disent ça, mais il faut surtout pas censurer le gouvernement parce que derrière ça va être le chaos.
Le chaos arrivera, le mieux ça sera parce qu'on
risque d'avoir
droit, de toute
une
façon,
attaque sur la dette, machin.
C'est vraiment, mais on s'en fout ça, si vous laissez. C'est toujours pareil, c'est les gars qui vous disent « Oh là là, il va y avoir une catastrophe si on fait ça ». Mais dites donc, c'est pas vous qui étiez au pouvoir depuis 40 ans qui nous avez amené là ?
Oui.
Donc, pourquoi je vous croirais ?
On a envie de dire, de toute façon, c'est quoi votre plan de sortie ? Parce que même si le gouvernement est pas censuré, il y aura quand même plus de dépenses. Et il y aura pas autant de recettes que ce qu'il
prétend. Financier, donc,
voilà.
C'est pas... Si j'ose dire, c'est... Les marchés, ils vont refuser de payer la dette française ou de la continuer à y souscrire parce que la dette française est devenue insoutenable.
Oui.
Pas parce qu'on a changé, on a remplacé Tartampion par Tartambule.
Oui.
On s'en fout de ça.
Évidemment.
D'abord, ils savent même pas que ça existe.
Ouais.
Ils s'en foutent du qui est au pouvoir. Simplement, ils regardent les chiffres, ils se disent, ces gars-là sont incapables de les traiter.
Bien sûr. Ouais.
Donc, encore une fois, le plus tôt ça saute, le mieux ça ira. On pourra enfin se mettre au boulot.
Ouais. Et de manière générale, c'est-à-dire, si on s'extrait un peu de la situation très, très actuelle et qu'on regarde plus d'un point de vue institutionnel ou historique, est-ce que, en fait, on s'approche pas même de, potentiellement, de la fin de la Ve République? Parce que c'est aussi un système politique.
Oui. C'est-à-dire, ce qu'on voit, c'est que la constitution de la Ve République, qui organise la primauté de l'exécutif sur le législatif et sur le judiciaire, il n'y a pas une égalité entre les trois ordres, est une saloperie immonde. Ouais. Si le type qui est à la tête, ou si ceux qui ont pris le pouvoir, ne sont pas des gens vertueux.
Ouais,
donc,
c'est clair.
Ce qu'il y a de bien dans la Constitution américaine, c'est qu'elle n'est pas faite pour des gens vertueux, elle est faite pour empêcher les gens non vertueux de prendre le pouvoir ou même d'y rester.
Ouais.
Nous, la nôtre, on a dit, donc, comme on n'aura que des gens vertueux, il faut empêcher les autres de les dégommer.
Ouais.
Mais une fois qu'on a des non vertueux qui sont arrivés au pouvoir, alors à ce moment-là, on se retrouve comme Macron, on ne peut pas s'en débarrasser parce qu'on ne sait pas. Donc, la Constitution de la Cinquième est une salope. Il faut aller le plus vite possible vers le suffrage universel. Avec le référendum d'initiative populaire, parce que l'expérience a prouvé qu'on ne peut pas faire confiance à une classe de politiciens professionnels.
Oui.
Ils prendront des décisions favorables à la classe de politiciens professionnels et pas favorables au pays.
Oui.
Donc il faut une fois pour toutes se débarrasser de ce chancre.
Ouais, c'est clair. Et puis c'est vrai que les rapports de pouvoir pouvaient justifier à l'époque ce genre de constitution dans la période de Gaulle, dans la dizaine d'années de Gaulle.
Oui, mais surtout il fallait 15 jours, 3 semaines pour aller de Toulouse à Paris, il y avait pas d'information, donc il y avait quelques gars qui se faisaient élire, c'était très bien. Mais aujourd'hui tout le monde est parfaitement informé avec le téléphone, avec n'importe quoi. Donc arrêtez de me dire qu'on a besoin d'une la démocratie représentative dans le monde moderne n'a plus lieu d'être. C'est c'est un truc qui est complètement dépassé.
Bah, cela dit, justement, si la motion de censure passe, alors ce sera celle du NFP, du coup, qui sera votée aussi par le RN, parce qu'évidemment, celle du RN, elle sera pas votée par le NFP, mais enfin, peu importe. Mais si elle passe, justement, c'est une prise de pouvoir du Parlement sur l'exécutif, et ce, pour la première fois depuis très longtemps.
Oui, c'est simplement parce que l'exécutif a perdu absolument toute légitimité.
Ouais.
Dans une constitution normale, peut-être, on pourrait avoir un référendum de rappel, c'est-à-dire que on pourrait faire demander aux gens faire une liste en disant dites donc on l'a élu il y a 2 ans mais il nous a raconté des conneries.
Ouais.
Est-ce qu'on pourrait pas le rappeler lui donc pour si vous élisez quelqu'un pour 5 ans de lui donnant tous les pouvoirs, faut peut-être avoir une clause de rappel qui permettrait de s'en débarrasser s'il perd les pédales quand même.
Oh, on pourrait, ouais, ce serait intéressant de faire un truc, une sorte de plébiscite de mi-mandat. C'est-à-dire
pas de mandat quand le type commence, par exemple, il veut nous envoyer nous faire tuer en Ukraine.
Oui.
On fait un petit référendum en disant dites donc qu'il est en train de perdre les pédales celui-là. Non, on va pas, l'Ukraine ça nous regarde pas quoi.
Encore une fois, ce serait d'initiative citoyenne avec une
pétition.
Mais il faut que l'initiative
citoyenne se dire non, vous nous représentez plus quoi. Oui. C'est un peu ce qui est en train de se passer en Angleterre avec
oui, tout à fait, on en a parlé.
2,7 ou 2-3 millions là, ça commence à
ça vient de dépasser les 3 millions justement. On en parlait la semaine dernière et on va faire la fin de l'émission sur d'ailleurs le discours de Keir Starmer. Oui, c'est assez intéressant d'ailleurs. Je regardais, c'était hier soir, c'était Philippe Fabry qui parlait de ça, parce que Philippe Fabry, lui, ça fait des années qu'il dit voilà, on va vers la fin de la Ve République, machin, et vers un régime probablement plus parlementarisé. Et il notait un truc assez intéressant, c'est l'évolution des termes des premiers ministres sous Macron. C'est-à-dire qu'au début, on avait donc Édouard Philippe, ça a duré 5 ans. Ensuite on a eu Jean Castex, ça a duré 2 ans. Ensuite on a eu Elisabeth Borne, ça a duré 1 an et demi. Ensuite on a eu Gabriel Attal, ça a duré 6 mois. Et là on a Barnier, donc si Barnier saute, ça aura fait 3 mois. Et donc derrière, on ne sait pas exactement ce qu'on aura, peut-être qu'on aura un autre gouvernement qui passera encore moins de temps, qui tiendra peut-être 15 jours, un mois, quelque chose comme ça.
Va être ce qui est certain, c'est que le 7 juillet il s'arrête.
Oui. Ça, c'est très probable.
Parce que le 7 juillet, la Chambre, on recommence et on revote.
Ouais, ouais, tout à fait. Et il y a beaucoup de gens aussi qui spéculent sur l'activation de l'article 16. Donc, c'est les pleins pouvoirs présidentiels.
Oui, mais ça, c'est quand les intérêts supérieurs de la nation sont en danger.
Oui.
Je sais pas. Mais imaginez que Macron invoque l'article 16 et qu'ils s'en servent et que tout le monde, toute la France se met en grève en disant on veut pas, qu'est-ce qui se passe?
Ah bah justement, ce serait totalement une situation quasiment révolutionnaire. C'est sûr, la gauche attend que ça parce que ça ils vivraient dans une sorte de simili dictature, donc eux ils rêvent que de ça, de renverser un simili dictateur. À mon avis, oui, il y aurait des gens dans la rue s'il y avait une activation de l'article 16, et ça pourrait totalement être la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Et il y a d'autres gens qui disent justement, bah si on est dans une impasse, pourquoi pas une démission du président comme ça, pareil.
Mais ça résout rien puisque on va élire un gars. Puis ensuite, le gars, on l'aura pour 5 ans après.
Ouais.
Et puis ensuite, pendant les 6 premiers mois, il va rien pouvoir faire. Parce qu'il peut pas dissoudre.
Il peut pas dissoudre la chambre, tout à fait.
Il peut pas dissoudre lui non plus. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait? On va se retrouver avec un type tout seul à l'Élysée qui attendra 6 mois.
Ouais. Bah, c'est-à-dire que justement, voilà, pendant, s'il y a censure du gouvernement, on se retrouve pendant un peu plus de 6 mois, 7 mois, avec une situation de blocage. Mais après, est-ce que cette situation de blocage, c'est pas la meilleure chose qui puisse nous arriver à l'heure actuelle?
Pourquoi pas?
Parce que moi, franchement, je vois le projet de loi de finances. J'espère qu'on va pas le voter.
Bah,
très
bah,
franchement.
D'abord, vous savez que c'était en Belgique il y a quelques années. Il y avait eu 2 ans et demi ou 3 ans. Il n'y avait pas eu de gouvernement. Ouais. Ils ont pété la forme comme jamais, quoi.
Ouais. La simple différence, c'est que les marchés attendent justement le projet de loi de finances, les marchés et puis l'Union européenne. Et donc, si on n'a pas de projet de loi de finances, alors je suis pas certain de ce qui va se passer. Certains disent, Marine Le Pen dit que de manière automatique, ce serait le projet de loi de finances du coup de l'année dernière qui passerait automatiquement.
Donc, toutes les dépenses seraient reconduites
à l'identique, oui.
Sauf le service de la dette, puisque là, ça varie avec...
Oui, forcément. Et puis, il y a tous les trucs d'indexation automatique pour les fonctionnaires, pour les retraités, pour tous ces gens-là.
Donc, tout ça est passionnant, mais ça veut dire que, à l'évidence, on est en train d'arriver... C'est à partir de Mitterrand que tout a dérapé, que les retraites, tout ça, ça est devenu l'objet d'un... d'un débat politique, donc ça fait 40 ans qu'on débarque, dans tout ce qui est facile à faire, la démagogie la plus... on arrive, 1981, donc ça fait 42 ans.
Ouais, c'est ça.
42 ans, on arrive à la fin de 42 ans de démagogie.
Ouais.
La note va être salée. Mais la façon dont on y arrive, on s'en fout. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on est en train d'y arriver.
Oui.
Et que quoi qu'on fasse, il n'y a rien à faire. Oui. On va en rembasser plein la gueule, ce que je me tiens à dire aux gens.
Oui.
Donc, espérer qu'on va... Encore une minute, monsieur le bourreau. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute d'avoir la tête coupée aujourd'hui ou dans une heure?
Oui.
Pareil, j'ai la tête coupée, quoi, c'est tout. C'est pour madame Dubarry qui demandait encore 5 minutes, monsieur le bourreau, quand elle était sur l'échafaud.
C'est ce que vous dites toujours. Vaut mieux une fin horrible qu'une horreur sans fin. Là, on est en train de vivre une horreur sans fin.
Autant avoir une fin horrible, et puis be done with it, comme on dit en anglais, puis quand ça fait qu'on parle d'autre chose, quoi.
Et puis de toute façon, il faut un choc, mais vraiment violent.
Bah, c'est pas ça, c'est il faut que cette classe politique soit complètement c'est-à-dire qu'elle puisse plus se représenter à rien, quoi.
Ouais. Ah oui, il faut un discrédit à vie, quoi.
À vie, quoi. C'est comme les gars qui avaient signé l'armistice, ou j'en sais rien, en 40, quoi. Bon, ben voilà.
Faut quand même se rappeler, on est déjà au bord de la faillite. Le Premier ministre lui-même le dit. Maintenant, tous les ministres le disent. Il y a 6 mois, on avait l'impression
Fillon
que ça allait encore.
Dit. Fillon était Premier ministre en 2008. Je suis Premier ministre d'un État en faillite.
Ouais.
Bougez pas, c'était en 2003 ou 2004. Donc ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on sait qu'il est en faillite.
Fillon, c'était sous Sarkozy.
Oui, ben Sarkozy, c'était à partir de quand?
Bah 2007.
2007.
Mais 2007. Oui, c'était ça, c'était 2007-2008, où il avait dit « je suis à la tête d'un État en faillite ». Et en plus, après, on a eu un sursis, parce qu'il y avait les taux d'intérêt à zéro.
À zéro, oui.
Qu'on aurait
dû mettre à profit pour réduire les dépenses, mais qu'on n'a pas fait.
Évidemment. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec toute cette masse de dettes, mais avec des taux d'intérêt bien, bien supérieurs, et qui ne cessent d'augmenter, d'ailleurs, puisque bah, forcément, on est de plus en plus insolvable.
On se rapproche de 3.
Oui.
Enfin, je crois qu'on est à 3, alors que l'Allemagne est à 2. J'ai vu avec la... Je suis le spread, non pas avec l'Allemagne, parce que tout le monde le regarde, donc il est manipulé. Je suis le spread France-Danemark.
Ouais.
Et là, on est déjà à 110 points.
Ouais. On en parlait justement la semaine dernière dans l'Université de l'Épargne. Ça permet de faire un petit une petite promotion interne. Et justement, pour faire encore plus le pont potentiellement avec l'Université de l'Épargne... qu'est-ce qui se passerait d'un point de vue pratique si effectivement, là, la semaine prochaine, ou pas forcément la semaine prochaine, mais le mois prochain, il y avait justement une attaque sur la dette française, c'est-à-dire que les taux d'intérêt doublent, voire plus, et à ce moment-là, on se retrouve littéralement en impossibilité de rembourser, ne serait-ce que les taux d'intérêt de
on pourra peut-être trouver une façon de rembourser les taux d'intérêt, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut couper massivement dans toutes les dépenses.
Ouais, c'est clair. C'est-à-dire,
parce qu'en principe, les intérêts sur la dette, c'est ce que vous payez en premier.
Ouais.
Et puis ensuite, donc, ça veut dire qu'il y a toute une série de gars qui ne sont pas payés. On ne pourra pas les payer.
Mmh. Et ça veut dire quoi pour l'épargne des gens qui sont pleines
Ils sont obligés de tirer sur leur épargne.
Ouais.
Parce qu'ils n'auront pas reçu leur salaire. Vous savez, c'est ma boîte à chaussures, ça.
Ouais, bien sûr.
Donc, si vous ne recevez pas votre chèque.
Et, voilà. Et pour ceux qui ont des obligations d'État français dans leur...
En principe, ils seront payés, mais ils auront leur coupon qui sera payé. Mais s'il faut rembourser le principal, ils peuvent toujours se brosser. Donc, je dirais à ce moment-là, vous auriez pas dû en acheter.
Ouais. Alors malheureusement, parfois, surtout dans tout ce qui est assurance vie, on choisit pas forcément. On fait un contrat avec sa banque et puis bon. Je vous invite à regarder, ne serait-ce que par curiosité, les trucs qu'on peut mettre dans son assurance vie en Suisse ou au Luxembourg, par exemple, ou même dans d'autres pays normaux, et ce qu'on peut mettre en France. La disponibilité en France de ce qu'on peut mettre dans son assurance vie est vraiment très 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 limitée, très très alarmante. Et justement, c'est aussi à tout un tas de gens comme ça qui ont envie de protéger leur épargne que on s'adresse avec l'Université de l'Épargne.
On leur a donné un conseil depuis longtemps, avant même qu'elle existe, c'était de ne rien avoir à faire avec l'État français.
Ouais. Oui, donc, ça fait longtemps.
Ça fait longtemps. Donc si vous voulez, par exemple, Air Liquide vient de faire une distribution gratuite avec une augmentation de 10% du dividende pour les gens qui s'inscrivaient directement chez eux. Donc Air Liquide vous traitera bien, l'État français vous traitera mal. Donc.
Ouais, ça c'est clair.
Donc, vous savez qui donne à l'État près de tarir, hein, c'est quand même...
C'est si j'achetais une obligation d'État français en 1914.
Vous perdez en 1930, vous avez perdu 97% de votre pouvoir d'achat.
Ouais, c'est pas un très bon investissement ça.
Mais vous savez quand les pays j'ai souvent dit tous les 100 ans à peu près il y a une crise, 70 ans de calme et puis 30 ans de merdier donc. Et dans les 30 ans de merdier, il y a toujours une, deux ou trois grandes monnaies qui disparaissent avec leur marché obligataire. Mmh. Parce qu'on a émis trop de dettes, ben le système ne peut pas supporter la capitalisation des taux d'intérêt, donc pouf. Donc dans ces périodes de chaos, il faut beaucoup mieux avoir de la propriété que des contrats.
Oui.
Et donc, il me semble que tout semble indiquer que la prochaine monnaie qui va sauter, ça va être l'euro. Quoi.
Oui.
Et donc avoir des trucs en euros, il faut déjà être un peu spécial. Quoi. En 1797, c'était le franc français qui a sauté. En 1910 ou quelque chose comme ça, 15-20, ça a été le rouble, la monnaie allemande, la monnaie autrichienne, qui étaient des grandes monnaies, hein, qui ont sauté, qui ont disparu complètement. Mais déjà, vous avez le rouble soviétique qui a disparu. Et l'autre création qui n'a pas lieu d'être, c'est l'euro. Donc... ça va disparaître aussi. Donc, le problème de la dette, c'est qu'à partir d'un certain moment, les taux d'intérêt se capitalisent beaucoup plus vite que la richesse créée.
Ouais.
Et à ce moment-là, la seule solution, c'est que la monnaie disparaisse. Quoi.
Ouais.
On y est.
Ouais. Et pour faire pareil, le parallèle sur l'euro. Alors, il y a l'AFD qui a relativement peu de chances d'arriver au pouvoir en Allemagne.
Sors
de l'Europe. Là, ce serait la fin, littéralement, de l'Union Européenne.
Tout de suite. Mais dès qu'un pays sort de l'euro, il sort de l'Union Européenne ipso facto.
Ouais.
C'est ce qu'ils ont mis. Ils ont mis dans le prospectus. Donc, si la France décidait de sortir de l'euro, ça veut dire qu'il sort de l'Europe.
Ouais.
Ils n'ont pas le choix.
Ouais.
Plutôt, dès qu'un pays le fait, ça va se détricoter à toute allure.
Ouais.
Donc, Madame van der Leyen, tous ces gens-là pourront enfin passer devant les tribunaux.
Oui, mais là, vu à quel point on s'enfonce dans votre pays, est-ce qu'on n'a pas plus de chances de se faire sortir de l'euro que de sortir de l'euro?
On s'en fout qu'on soit sorti de la pote dès qu'on sort de l'euro.
Ah oui, bien sûr.
On s'en fout. Qui nous sort de l'euro, qu'on soit sorti, qu'on y reste. Si vous pouvez imaginer qu'il peut exister une monnaie européenne sans qu'il y ait la France dedans, ben, bonne chance. Hein.
Oui, parce que je suis pas sûr que les Allemands, ou même d'autres qui essayent de faire un peu plus attention maintenant, l'Italie, éventuellement même l'Espagne, enfin d'autres pays normaux, je suis pas sûr qu'ils aient très envie de partager encore pour très longtemps leur union monétaire avec nous. Quoi.
Non seulement avec nous, mais avec l'Allemagne, avec... des gens qui connaissent pas là-bas, en Europe de l'Est, ils savent pas qui c'est. Donc, ouais. Tout ça, c'est une histoire de fou. Quoi.
Ouais.
La monnaie, c'est l'expression d'un peuple.
Et de manière très générale, c'est très théorique, mais comment on garde la valeur d'une monnaie ?
Bah, il faut simplement que les taux d'intérêt... Bah, d'abord, faisant confier... D'abord, la valeur, c'est subjectif. Donc, normalement, ouais. Si vous voulez, vous prenez des... Ce qu'on a fait historiquement, c'est que soit là, il fallait que celui qui emprunte rembourse soit dans la monnaie, soit dans un poids d'or qui était défini. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas créer de la monnaie, sinon l'or passait au travers du toit. Donc, pendant longtemps, il y a eu le Gold Exchange Standard, qui était une façon de garder la valeur de la monnaie. Puis, on s'en est affranchi. Et maintenant, bah, si vous voulez, la façon d'avoir une monnaie solide, c'est d'avoir pas de déficit budgétaire. Foutre la paix aux gens, c'est la Suisse, quoi.
Ouais.
Et à ce moment-là, bah, les gens veulent de votre monnaie, simplement parce que s'ils ont cette monnaie, ils pourront la vivre dans ce pays qui est à peu près raisonnable. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que il y a deux écueils dans la monnaie. Si vous privatisez la monnaie, comme on a essayé de le faire au début de ce siècle aux États-Unis ou en Europe, on crée des espèces une concurrence entre monnaies ou j'en sais rien. À ce moment-là, il n'y a pas de gain de productivité si vous faites une concurrence entre les dans la monnaie. Ouais. Est-ce que vous y a plusieurs banques qui se font une concurrence, donc automatiquement ça saute. C'est la privatisation de la monnaie, mais l'écueil inverse, c'est la nationalisation de la monnaie où vous servez de la banque centrale pour financer vos dépenses.
Ouais.
Donc il faut que la monnaie, c'est un bien commun, elle soit gérée par une espèce d'institution au milieu qui soit un peu comme une espèce de cour suprême, comme l'était la Bundesbank. Le Conseil était complètement indépendant constitutionnellement du pouvoir politique. Et là, ça a été bien géré. Donc, les deux écueils de la monnaie, c'est qu'elle soit privatisée ou c'est qu'elle soit nationalisée. Donc, la monnaie, c'est un bien commun. Il faut donc trouver une façon que ce soit géré par des gens au-dessus de tout soupçon. Mais ça suppose qu'on les trouve. Et aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens au-dessus de tout soupçon.
Ouais, c'est clair.
Mais je crois que dans la Bundesbank, les gars qui géraient, si mes souvenirs sont exacts, je suis pas sûr, je crois que les gens qui géraient étaient responsables sur leurs fonds propres. C'est-à-dire que si l'inflation accélérait, on commençait à leur piquer du pognon à eux.
Ouais.
Moi, je trouve ça très bien.
Effectivement, oui, pourquoi pas, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant comme fonctionnement.
Vous êtes responsable.
C'est vrai que c'est un grand mal de ce siècle d'ailleurs, c'est le manque absolu de responsabilité à des gens qui sont à des postes absolument
capitaux.
Mais
ils ont tous pris des dispositions pour qu'on puisse jamais... C'était le cri de guerre des années Mitterrand, c'était responsable mais non coupable.
Ouais.
C'est-à-dire, je suis responsable mais il m'arrivera rien parce que voilà, parce que je suis pas coupable.
Oui, je suis responsable en termes de pouvoir mais
coupable,
pas en termes de...
T'es juste nul.
Oui.
Donc on te vire. Ah ouais. Ben non, c'est pas le droit.
Voilà,
ouais, c'est Fabius, quoi, qui ouais. termine au Conseil constitutionnel comme président, alors qu'il aurait dû terminer
en prison,
au
déjà.
Conseil d'État et être à la retraite et quelque part sur la Côte d'Azur, et puis comme ça il nous emmerderait pas.
Oui, même il aurait même dû faire quelques années en prison, d'ailleurs.
C'est pas sûr qu'il ait dû faire de la prison, mais en tout cas, il y avait eu un gros loupé de surveillance. Donc c'était peut-être pas malveillant,
oui.
Mais en tout cas il avait montré au-delà de tout ce qui était possible qu'il était incompétent.
Ouais.
Donc ben au moins on le vire, quoi. Et puis ensuite on l'accuse pas d'avoir fait des trucs. On dit vous êtes juste nul, quoi.
Ouais. Non, il a été récompensé pour son incompétence.
Oui, ça c'est ce qui arrive de plus en plus fréquemment d'ailleurs. On va voir.
Enfin voilà pour ce qui est de la France. Je sais pas trop quoi ajouter, surtout en absence
non,
là.
Mais surtout à ceux qui nous écoutent, ne croyez pas les faiseur de peur. Vous savez, ceux qui vous expliquaient que si on allait rentrer dans l'euro, ça allait être le bonheur. Maintenant, ils vous expliquent que si tout pète, ça va être le malheur.
Ouais.
C'est pas vrai du tout. C'est-à-dire, quand vous écoutez cet animal d'Attali qui nous explique que les années qui s'annoncent viennent très sombres, je suis sûr qu'elles sont très sombres pour lui parce qu'il s'est toujours trompé sur tout. Mais j'espère qu'on va cesser d'écouter cet animal. Mais surtout, si c'est la fin de l'horreur, eh ben, c'est une bonne nouvelle.
Ah, oui,
donc, si leur système à la con saute, on en prendra plein la gueule, mais encore une fois, on sera libre. Donc arrêtez de penser que c'est une mauvaise nouvelle.
Ouais.
Et surtout, quand un type vous dit ça va sauter, vous leur dites enfin.
Ouais. Tout ce qu'il faut faire, c'est savoir prendre ses dispositions
bien
en
sûr,
amont.
Pour essayer de limiter les trucs personnels. Et ensuite, vous regardez en disant enfin, on se débarrasse de tous ces cancres.
Voilà, faut se protéger de ce genre de choc.
Individuellement, mais se réjouir au niveau collectif.
Voilà, parce que à un moment donné, il y a même pas 6 mois encore, il y avait des types qui nous faisaient des programmes avec 100 ou 150 milliards de déficit en plus, en pensant qu'on était encore au top des années Mitterrand, quoi, comme si on était en 1982. Mais à un moment donné, ces gens-là, il leur faut un choc, mais brutal.
Et surtout, il faut qu'on cesse de les élire.
Il faut qu'on cesse de les élire.
Faire instituteur. Ah, là-bas, oui. Dans l'Aude, ou je sais pas d'où ils viennent, et qui nous foutent bien la paix, quoi.
Ouais, absolument. Donc, voilà, il faut un choc
quand
absolu.
Quand vous avez prouvé au-delà de tout ce qui est possible votre incompétence, écoutez, moi, j'ai la peine pour les petits-enfants de l'Aude qui les récupéreront ça comme instituteur, mais enfin, tant pis.
Ouais.
Il vaut mieux qu'ils en abîment quelques-uns que de foutre en l'air la France, quoi.
Ouais. Enfin, je vérifierai quand même que ces gens-là ne deviennent pas instituteurs pour mes futurs enfants.
Mais si vous les voyez arriver dans votre école, vous changez de vie les enfants.
Hein. Je fuis. Voilà. Donc, voilà pour la France. Je voudrais ensuite parler d'un discours qui m'a paru assez important. Donc, la semaine dernière, nous parlions de la Grande-Bretagne.
Qui est en train de rentrer dans une espèce de...
Qui est dans une période particulière, politiquement.
Chaotique, justement, d'un gouvernement qui a été élu par une minorité de gens et qui a une majorité énorme à l'Assemblée,
ouais.
Et qui ne représente absolument pas le pays parce qu'ils ont bénéficié d'une astuce constitutionnelle qui leur permet d'être une majorité alors qu'ils ont la minorité dans le pays. Et donc, on a un vrai problème de crise entre la légitimité et la légalité.
Absolument.
Ce gouvernement est légal, mais il n'est pas légitime.
Ouais.
Ça fout un merdier, pas possible.
Voilà, donc c'est déjà un des dirigeants les plus impopulaires d'Europe.
Et pour de bonnes raisons.
Et pour de très bonnes raisons. Donc Keir Starmer, le leader du Labour, qui est donc maintenant Premier ministre en Angleterre, enfin au Royaume-Uni. Et donc on parlait la semaine dernière de cette fameuse histoire de pétition qui demandait des nouvelles élections. Donc la semaine dernière, ils en étaient à 2 millions de signatures. Désormais, ils sont à 3 millions. C'est beaucoup. C'est un tiers à peu près des voix qu'a obtenu justement
le Labour. Si on arrive vers 6, 7, 8 millions, ça va devenir très difficile parce que ça commence à être la majorité avec laquelle il a été élu.
Ouais.
S'il y a plus de gens qui demandent de nouvelles élections que de gens qui l'ont élu, là, ça va être...
Ouais, et encore une pétition, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec les pétitions sans forcément les signer. Donc ça veut dire que s'il y a 3 millions de signatures, il y a au moins 15 millions de gens qui sont d'accord avec l'idée de refaire des élections.
Il devrait signer pour forcer ça, c'est ça la question.
Ouais,
La question c'est, il a été élu avec à peu près 8 millions de voix, si mes souvenirs sont tout
compris.
Oui, ça,
9 millions à peu près.
9 millions, si d'un seul coup il commence à y avoir 10 millions de gens qui demandent à ce qu'il s'en aille, ça veut dire qu'il a plus aucune légitimité, quoi.
C'est clair. Il a
3 millions, il peut dire ouais.
Voilà, on rappelle qu'il a été quand même élu avec moins de voix que le Labour n'en avait eu
toutes les précédentes législatives.
Voilà.
Et avec il a eu 400 députés.
Voilà, on rappelle, à l'élection de 2019, le Labour avait eu plus de voix et pourtant c'était cataclysmique comme résultat pour le Labour. Comparativement bien sûr au parti conservateur de Boris Johnson, et là ils ont eu encore moins de voix, mais comparativement aux autres il y a eu tellement
parce qu'il y a Farage qui est arrivé qui a piqué des voix aux conservateurs.
Il y a eu un double effet, déjà moins de participation et puis la participation de Farage qui a pris à peu près 30% de l'électorat conservateur, quelque chose comme ça, 30
donc,
à 40% et en réaction Keir Starmer a fait un discours sur l'immigration, discours de 15 minutes à peu près dans lequel il a balancé des trucs auxquels je m'attendais pas. C'est-à-dire, il a dit « Les dirigeants occidentaux ont mené une expérience de frontières ouvertes. C'est arrivé à dessein et non par accident. Les politiques d'immigration furent réformées délibérément. Ce fut un échec et ils ont fait comme si cela n'était pas arrivé. » Il ajoute même, il répond préventivement à tous ceux qui disent que on a besoin absolument de millions et de millions d'immigrés pour faire tourner, pour avoir une main d'œuvre quoi. Et il répond de manière assez intelligente là-dessus. Il ajoute donc que les pénuries de main d'œuvre étaient sciemment organisées par les gouvernements précédents pour prétendre justement avoir besoin de l'immigration. Et il dit il voulait avoir une Grande-Bretagne mondiale. C'est-à-dire avoir une nation, mais avec le monde entier au sein de cette nation, et donc une nation en quelque sorte sans identité, quoi. Donc il explique que les besoins des entreprises n'étaient plus du tout en adéquation avec ceux de la population, ce qui faisait que bah, nécessairement les entreprises ne pouvaient pas trouver ce qu'il leur fallait dans la main-d'œuvre du pays. Il dit donc la focalisation vers une main-d'œuvre bon marché, peu qualifiée et sans ambition, amène nécessairement vers un recours infini à l'immigration, et donc on ne peut pas demander à la population d'une nation développée, en l'occurrence le Royaume-Uni, de se sous-qualifier pour correspondre justement aux volontés de certaines entreprises.
Ce qui est une connerie, mais je veux dire par là, c'est que à partir du moment où vous avez toutes les opérations depuis à peu près 30 ans qui sont bêtes, appelons-les par leur nom, sont robotisables.
Ouais.
Donc c'est simplement que
il
suffit de remplacer cette population d'immigrés par, c'est ce qu'ont très bien fait les Suisses par exemple, et ils n'ont qu'un problème dans les entreprises.
Ouais.
Donc l'idée qu'on va prendre des gars pas chers, ils sont toujours plus chers que des robots. Donc cette excuse qu'il prend prouve qu'il a rien compris au film. D'ailleurs c'est pas nouveau. Hein. Ouais. Tout le monde sait qu'il est bête comme un âne.
Ouais, ouais.
C'est en mer.
Mais c'est à dire que je ne m'attends pas forcément à quoi que ce soit de sa part en termes de mesures. Il a annoncé des mesures. Bon, enfin je vais en citer quelques-unes, mais
personne ne le croit. Il avait annoncé qu'il n'augmenterait pas les impôts, il les augmentait. Il a annoncé.
Ouais.
Il a fait n'importe quoi pour être élu, puis une fois qu'il est élu, il fait exactement le contraire.
Ouais.
À la place d'avoir dit la vérité aux gens, il aurait été élu quand même, il aurait pu faire ce qu'il voulait. Non, là, il a fait le contraire. Donc, encore une fois, ça fait partie de ces gars, si vous voulez. Je sais pas si vous avez remarqué, dès qu'un gars commence à devenir impopulaire et qu'il est viré, il dit ce qu'il faut faire, quoi.
Ouais.
Mais c'est marrant, quand, tant qu'ils sont au pouvoir, ils le font jamais. Donc, je crois qu'il y a une partie de la classe politique qui pense qu'il faut mentir aux gens pour être élu. Ils sont vraiment persuadés. Mmh.
Mais est-ce que c'est pas quand même, enfin, dans les termes qu'il utilise, je trouve ça quand même assez dingue ce qu'il nous annonce. C'est-à-dire, voilà, comment dire, il y a un peu, il reprend des thématiques qui d'habitude sont utilisées par la droite dure, disant que voilà, il y a toute cette immigration, elle est volontairement organisée par tous nos dirigeants, machin. Certains nous disent non, ça se fait juste comme ça parce que aujourd'hui il y a plus d'immigrés.
Mais il faut pas oublier un truc essentiel, c'est que Starmer est bête.
Oui.
Vraiment bête.
Oui.
Donc il se rend peut-être pas compte de ce qu'il dit.
Alors, je pense que c'est tout à fait une possibilité.
Moi, effectivement. Pour moi, parce que c'est un discours, d'ailleurs, que même Farage ne fait pas.
Oui. Oui, absolument. C'est ça le truc, c'est qu'il se veut beaucoup plus conservateur que les conservateurs eux-mêmes, et même Farage n'utilise pas ce genre de.
Il est en train de dire que tous les immigrants sont crétins.
Oui.
Ce qui est intéressant comme notion, mais enfin, ce qui est pas prouvé, quoi.
Oui. Mais comment dire ?
Si on pouvait remplacer tous les cas du LFI par des immigrants, on se porterait mieux, quoi.
Oui. Oui, ça dépend des immigrés, mais si on était dans un monde, si c'est pas.
Je suis sûr que au hasard des immigrés, il serait mieux que son accueil.
Oui, si on les prenait totalement au hasard dans le monde, je pense que oui, on s'en sortirait.
On s'en sortirait bien, mieux. À mon avis, serait quand même beaucoup mieux que les
immigrés. Oui, je pense aussi, avec surtout dans un monde libre, où il n'y a pas trop de problèmes de cotisation, pas trop d'aide sociale, de ce genre de truc. Je pense que naturellement, il serait beaucoup plus contributeur envers la nation. Enfin, comment dire, je trouve que c'est un discours symboliquement qui est assez important parce que d'habitude
ils essayent maintenant de dire certains partis de gauche comme en Allemagne ou n'importe quoi sont maintenant il y a des partis de gauche en Allemagne qui a été créé.
Ouais.
Qui sont de gauche et contre l'immigration. Donc.
Oui. Oui, c'est le BSW.
BSW. Donc, on commence à voir. L'habitude d'être contre l'immigration, c'était de droite.
Mmh. Oui.
Mais maintenant, il y a tous les gars qui vivent dans certains quartiers avec ces gars-là qui disent non, mais moi je suis de gauche, mais je suis contre l'immigration. Donc, l'immigration devient un sujet difficile parce que quand vous en parlez, vous savez plus si c'est un mec de droite ou un mec de gauche qui vous parlez, quoi.
Ouais, ouais. Bah, c'est-à-dire qu'on a l'impression que automatiquement, même si vous êtes à l'origine plutôt de gauche, c'est-à-dire avec une fibre sociale, machin, si vous commencez à être contre l'immigration, directement vous êtes catalogué à droite, voire à l'extrême droite, directement. Et d'ailleurs, en vrai, en termes de politique générale, si on prend les standards des années 90, 2000 ou même 80-70, le RN est un parti de gauche si on enlève la partie sur l'immigration, clairement.
Oui, le RN, il est un parti, oui, qui a beaucoup de mal à avoir des idées cohérentes. les unes avec les autres.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire ils ont pris des trucs sur les étagères, mais je suis pas sûr qu'ils se rendent compte qu'on peut pas faire une soupe avec. Quoi.
Oui, il y a des trucs qui se contredisent, tout à fait.
C'est un peu gênant.
C'est sûr.
On peut pas trop leur en demander. Hein.
Ouais. C'est non, le gros problème effectivement avec le RN, c'est que il y a une différence entre les intentions et derrière les actes qu'ils veulent vraiment mettre en place. C'est-à-dire que
il faut d'abord, si vous voulez, ce que je me tue à dire aux gens, c'est que pour si vous devez gouverner, si vous devez faire une activité de gestion, quelle qu'elle soit, etc., la première chose que vous devez faire, c'est faire un diagnostic. Vous dites qu'est-ce que j'ai, quelle est la situation aujourd'hui.
Ouais, ouais.
Et le problème, c'est que le RN n'a pas la capacité à faire un diagnostic de la réalité qui tienne debout. Mmh. Donc, ils vont prendre des décisions en fonction de préjugés qu'ils ont, eux. Mmh. Et donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre eux et les communistes et les socialistes, qui aussi prennent des décisions sur les... c'est très bien de dire que l'égalité, c'est bien, l'inégalité, c'est mal, mais en fait, comme 80% de la richesse est créée par 20% des mecs, si vous empêchez les 20% de gagner de l'argent, ils vont se barrer et vous serez, tout le monde sera pauvre.
Ouais.
Donc, si vous dites, il faut, si vous n'êtes pas capable de comprendre qu'il y a une différence essentielle entre la création de valeur et la distribution de valeur, et qu'il faut quand même un peu foutre la paix à ceux qui créent de la valeur, ben, vous allez d'échec en échec. Or, c'est l'échec qui a été celui des communistes, celui des socialistes, et maintenant, ça va être celui du RN.
Ouais.
C'est triste, mais, ils sont pas compétents.
Et c'est pour ça qu'il faut aussi un choc, justement, sur notre dette, parce qu'il faut eux aussi les choquer. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que quelqu'un comme Bardella, qui est pas forcément très, très cultivé sur la question économique, mais j'ai l'impression qu'il a des bonnes intuitions.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en général, il répond bien.
Voilà, en général, il dit qu'il a plutôt l'intention de baisser les impôts, les charges patronales, ce genre de choses. Voilà, il a compris que pour créer de la richesse, pour avoir de la croissance, il fallait libérer justement la production, l'emploi, ce genre de choses. Il fallait avoir une société un peu liquide de ce point de vue-là et pas tout formaliser, rajouter de l'administration à chaque fois.
Plus le poids de l'État dans l'économie augmente, par définition, plus les espaces de liberté se restreignent.
Absolument.
Parce que la définition de l'État, c'est celui qui a le monopole de la violence légitime. Mmh. Donc il peut vous forcer à faire ce qu'il veut.
Ouais.
Donc plus le poids de l'État dans l'économie est important, moins la liberté est présente.
C'est clair.
Et donc, mais eux, quand vous les entendez parler, ils veulent que l'État fasse ceci, que l'État fasse cela, que l'État soit stratège, je vous en sais rien. Et vous dites, mais... Grosse malheur la guerre, hein.
Ouais.
Vous êtes fatigué.
Oui, c'est clair. Donc voilà, il y a une contradiction entre le discours plus Bardella et puis celui de Jean-Philippe Tanguy qui veut taxer tout ce qui bouge, on a l'impression.
Oui, tout ce qui bouge, oui.
Les super profits, c'est son grand dada. Enfin bref, c'est un petit peu épuisant et on comprend pas bien, d'ailleurs, je pense que c'est un peu ce qui freine le RN aussi, on comprend pas bien quel est leur projet.
Si vous voulez, je vous donne un exemple. Les super profits, pareil, je crois que le VMH a dû faire 20 milliards de profits cette année, c'est bien. Mais EDF, géré par les génies qui nous gouvernent, a perdu 23 milliards. Donc le scandale, c'est pas que LVMH ait gagné 20, c'est que des gens payés par l'État et tout nous aient amenés dans un endroit où EDF, qui était dans une situation de monopole, qui devait gagner 50 milliards, s'est démerdé pour en perdre 23.
Ouais.
Donc Jean-Philippe Tanguy, à la place de se préoccuper de LVMH, il devrait faire des enquêtes sur EDF et demander à ce que les gens aillent en prison. Donc, celui qui perd de l'argent public dans une activité commerciale, c'est lui qui doit aller en prison. S'il perd de l'argent public, de l'argent privé dans une activité commerciale, il fait faillite. Il y a la sanction. Mais là, les types qui ont géré EDF, ils n'ont pas été sanctionnés.
Ouais.
Donc, encore une fois, mais occupez-vous, votre boulot, c'est de vous occuper de l'argent public. C'est pas de vous occuper de l'argent privé. On paye des impôts, ils y ont après dans l'argent public. Donc, s'il y a de l'argent public qui est mal géré, avec Alstom, avec Areva et tout, essayez de voir comment cet argent a été perdu. Mais vous occupez, s'il vous plaît, pas du tout de l'argent privé, parce que ça n'a rien à voir avec vous.
Ouais.
D'ailleurs, si c'était facile, vous le feriez.
Surtout qu'il est largement, largement déjà surtaxé.
Évidemment qu'il est surtaxé, tout le monde se bat.
Je sais pas si les gens se rendent bien compte, mais une entreprise, elle doit payer sa TVA, elle doit payer...
Mais quand vous recevez votre pognon, quelqu'un que j'embauche à 2000, il me coûte 4000.
Ouais.
Bon, d'abord, pourquoi en Angleterre, il me coûterait 300 de plus. C'est 15% les charges patronales. Ici, il coûte 2000. Bon, donc moi, il est pas assez payé.
Ouais. Vous pouvez pas le payer plus.
Il me coûte trop cher.
Ouais.
4000, il me coûte pas trop cher parce qu'il rapporte pas 4000. Puis ensuite, quand il touche les 2000, il va payer des impôts sur le revenu, j'imagine, puis la TVA, plus tout ça. Donc sur les 2000 que je lui paye, l'État va en prendre 30 ou 40%.
Ouais.
Donc le type, il va toucher 1200, et il va me coûter 4000.
Ouais.
Mais vous vous rendez compte?
Ouais. Au milieu, il y a l'État qui pioche à plusieurs reprises en plus, parce que
tout le temps.
Déjà sur les 4000 qui vous restent, il pourrait vous rester beaucoup
plus.
Mais
vous me prenez de l'essence pour aller au boulot, paf, il y a 80% de l'essence qui va à l'État.
Ouais.
Vous allez déjeuner à la cantine, pof, il y a 20% de l'État qui est...
Sur toutes les ventes que vous faites, vous avez 20% de TVA. Ensuite, sur ce qui vous reste, vous avez 25% d'impôt sur les sociétés. Et éventuellement, d'ailleurs, si vous avez des parts dans l'entreprise, que vous faites une plus-value, que vous les vendez, vous avez 30% de flat tax dessus. Enfin bref, à chaque fois, c'est tout est
donc,
comme ça.
Donc grosso modo, vous gagnez 100 et vous voyez qu'en fin de journée, il vous en reste 10 ou 12.
Ouais.
Et vous dites, mais... je vis mal. Ben évidemment que tu vis mal.
Ouais, et au milieu,
c'est ce que disait Milton Friedman tout le temps. Il disait, si vous vivez mal en province, c'est qu'ils vivent trop bien à Washington. Mmh.
C'est exactement ce qui se passe.
Vous n'avez qu'à voir les voitures de fonction.
Ouais.
Vous avez copé avec deux voitures de fonction, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros par an. Le type est à Meaux, il doit y avoir des trains de Meaux à Paris toutes les 5 minutes. Il avait une voiture de fonction qui lui, avec deux chauffeurs qui l'attendaient et tout et tout.
Ouais.
Donc, pour qui se prennent-ils ces gars-là? Ce que coûtent les anciens premiers ministres.
Ouais. D'ailleurs, pour le coup, Jean Castex a refusé.
Oui, ça m'a donné envie de le rencontrer.
C'est le seul qui a refusé tous les services, qu'on propose aux anciens premiers ministres.
Mais par contre, Madame Borde, elle était tout à fait d'accord pour tout retour sur moi.
Ouais. Ouais. Comme tous les autres d'ailleurs. Et maintenant que les premiers ministres, en plus de ça, on en sort tous les 6 mois, donc
Edith Cresson, non, je pensais, elle est toujours là, avec sa voiture qui vient la chercher tous les jours.
Ah oui.
Balladur, il est pas mort non plus, non?
Balladur, Villepin, il est toujours là.
Villepin, oui, c'est bien ouais. Ça.
Jospin, il est pas encore mort, Jospin.
Non, Jospin, je l'ai vu récemment, non, il vit à l'île de Ré, donc ils sont tous là, ils ont été le premier ministre il y a 30 ans, ils continuent à avoir voiture de fonction. Gratuit dans le train et dans l'avion, enfin bref. Donc, c'est pas difficile, c'est pas qu'il n'y a pas assez d'argent, c'est que l'État nous en bouffe trop. Oui. Donc, la seule solution, c'est que il faut faire comme dans ce que réclamait Locke, les dépenses de l'État soient votées par les citoyens, et comme aujourd'hui, on a des vendus qui sont au Parlement, il faut que les dépenses de l'État soient maintenant soumises au référendum. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on augmente le Parlement de 12% cette année, alors que je crois que les citoyens voteraient non?
Ouais.
On va peut-être le diminuer.
Ouais. Et puis peut-être aussi empêcher les parlementaires d'être rémunérés si on est en déficit.
Oui, ça c'est une idée de Milton Friedman, non, de Warren Buffett. Warren Buffett, ouais. Il disait, si vous cessez de payer les parlementaires, vous verrez à quelle allure ils vont trouver des solutions pour faire couper les dépenses.
Ouais. Ouais. Bah d'ailleurs, il y a le Doge sur Twitter.
Ah oui, ça,
y
aller là.
Ils mettent régulièrement à jour certaines trouvailles qu'ils font, de trucs de voilà, on a dépensé 35 millions pour ça. Parfois, il y a des trucs absolument dingues. Faudrait en faire une liste. Là, jusque-là, ils ont trouvé à peu près 1000 milliards déjà de dépenses qui sont clairement en trop. Ou si on réduit le budget de 1000 milliards de dollars, le budget américain, de l'État américain, on s'en rendra absolument pas compte. Clairement.
Mais c'est comme le type qui est nommé Patel, qui a été nommé au FBI. Là.
Ouais.
Il y a 7500 cadres du FBI qui sont à Washington. Et il dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent à Washington? Ils devraient être en province en train de courir derrière les voleurs.
Ouais.
Donc il va fermer le centre du FBI à Washington, et il va les envoyer aller courir dans l'Oklahoma ou de l'Arkansas, là-bas, avec des gros chaussures pour courir derrière les trafiquants de drogue.
ça leur fera pas de mal. En plus de ça, c'est vrai que au moins Paris a le mérite d'être une véritable ville. Au moins, il se passe des choses à Paris. Alors, il y a le gouvernement,
Ça veut dire qu'ils pouvaient comploter avec tous les autres ministères.
Ouais, c'est clair. C'est clair.
Donc, il faut surtout les empêcher.
Voilà, à chaque fois, on sait pas ce qui se passe à Washington.
Tout ça, si vous voulez, on est en train d'arriver à la fin comme on est arrivé à la fin du communisme dans les années 90, on est en train d'arriver à la fin de la social-démocratie et de la démocratie représentative.
Ouais.
C'est un truc qui ne marche pas.
Ouais.
La démocratie représentative, ça ne marche plus. Donc, il faut trouver... La crise qui arrive, ça va être la crise pour trouver un système alternatif à la démocratie représentative. Ouais. C'est tout.
Ce qui n'a pas encore été véritablement trouvé dans des pays, on va dire, très installés, quoi. C'est-à-dire qu'on trouve des substituts dans les pays en développement.
On a fait un référendum en Angleterre pour sortir du Brexit et pas, ils en sont sortis, donc. Il y a eu des trucs comme ça qui se passent quand même.
Oui, mais justement, malgré ça, au Royaume-Uni, ils n'ont pas réussi à trouver une bonne...
Parce qu'il y a la vieille constitution qui est en... Il faut trouver autre chose, mais voilà, ça c'est à ça que ça l'écrit.
D'ailleurs, Elon Musk, alors déjà, on sait que Trump et Farage, ils sont assez copains. Et j'ai ouï dire...
Musk voulait donner 100 millions de dollars à Farage.
Voilà.
C'est vrai.
Démerde-toi.
Maintenant, essaye de faire sauter l'Angleterre comme on a fait sauter les États-Unis.
Ouais.
Donc, on sent bien qu'il y a les éléments... qui sont en place. Vous savez, une société qui se pète la gueule, c'est une société dans laquelle les élites ne sont pas capables de répondre aux défis qui sont présentés.
Oui.
Donc, c'est une vieille idée de Toynbee, et donc on voit bien que nos élites sont complètement incapables. Donc, tout ça, c'est des crises d'accouchement, si j'ose dire, d'une nouvelle société.
Oui.
L'ancienne société est en train de crever par incompétence, et on sait qu'il y a quelque chose qui va arriver derrière, mais on sait pas trop quoi. Mais on sait que cette façon de prendre les décisions ne marche plus. C'est-à-dire, c'est la démocratie représentative, ça n'est plus ni une démocratie, ni c'est représentatif.
Ouais. Mais c'est une très bonne chose, parce que...
Très bon.
Dans les systèmes démocratiques, surtout comme ça, avec des constitutions très dures, où c'est difficile de faire vraiment émerger des nouveaux partis, des nouvelles têtes, etc., et des nouvelles idées, il y a un temps parfois très très long entre la délégitimation du régime et trouver un système de remplacement. Et à chaque fois, on se dit... Ça prend son temps, et à chaque fois, on a tout un tas de gens qui disent « Non, mais on va trouver un moyen de... » Voilà, on va essayer de composer avec ce qu'on peut faire, et à chaque fois on ne trouve pas, et juste c'est juste encore une fois demander une minute à monsieur Bourg.
Vous pouvez pas demander à une poule de savoir nager, quoi.
Ouais. Oui, c'est exactement ça. Ouais.
Dans ce qu'il nous faut maintenant, c'est des canards, quoi.
Ouais.
Voilà, donc bienvenue aux canards, adieu aux poules, et puis voilà. Ouais. Quoi.
C'est exactement ce que Farage essaye de faire. Il est en train, j'ai l'impression qu'il est en train de gagner en légitimité.
Ah, tout à fait. Parce que toutes ces analyses se vérifient.
Ouais. J'ai vu qu'il gagnait beaucoup de terrain dans certains sondages, notamment dans le nord, dans le nord de la Grande-Bretagne
Parce qu'il parle des gens, il parle de des trucs qui les préoccupent. Il y a plus de logement social, les écoles marchent plus, les hôpitaux sont pleins. Il y a 6 millions de personnes qui sont arrivées en Grande-Bretagne et un terrain venant de l'extérieur dans les 10 ans. Ouais. Donc il n'y avait pas les infrastructures. Donc évidemment. Plus rien ne marche, quoi.
Évidemment. Enfin voilà.
Ben voilà, donc parce que le but que vous devez retirer ça, c'est que le mal français fait partie d'un mal général de notre Occident, qui est celui du fait que la démocratie représentative ne marche plus, qu'elle a été déviée. Donc le but, c'est d'essayer de trouver quelque chose.
Ouais.
Par quoi on va remplacer ça, quoi. Voilà. Moi, je dis la solution serait remplacée par la démocratie directe, mais. On va peut-être essayer de nous trouver un homme providentiel qui va nous mettre tous en prison ou j'en sais rien. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est ça n'est que le signe que notre régime politique tel qu'il est établi est obsolète.
Voilà, c'est-à-dire que nous
pas
avons
plus en France qu'ailleurs. Hein.
Ouais, nous avons des spécificités françaises, notamment héritées des années Mitterrand, notamment c'est tout Mitterrand et néo-mitterrandisme.
La vérole est partout.
Mais voilà, l'origine du mal est plus dans les institutions et dans les types qui occupent ces institutions. Et ça, ce mal, il est absolument similaire en Grande-Bretagne, désormais en Allemagne aussi. Enfin voilà.
Partout.
Absolument. Donc le but, c'est de trouver un système de remplacement. Il y a certains pays européens qui ont réussi à faire leur transition en douceur sans avoir besoin de changer les institutions, ce qui montre que leurs institutions n'étaient pas inaptes
ou qu'ils étaient petits. Petits, comme si vous êtes en dessous de 7 millions, c'est beaucoup plus facile que si vous êtes au-dessus de 10.
C'est plus facile.
D'un moment où vous êtes au-dessus de 10, Naturellement, le pouvoir est loin des gens. Ouais, quand vous êtes à 5-6 millions, le pouvoir est la maison d'à côté.
Oui, voilà. Si on pense au Danemark, à la Suède, des pays comme ça, pour eux, c'est plus facile. Mais je pensais par exemple à l'Italie. L'Italie a réussi. Alors après, faudra aussi voir sur le temps long ce que ça donne, parce que ça fait 2 ans, je crois, qu'elle est là, Meloni. Elle a réussi à faire certaines choses qui sont intéressantes, mais elle a encore besoin d'une certaine marge de manœuvre. Donc on verra sur le temps long. Pour l'instant, il est un peu trop tôt pour le dire, mais au moins leur système ne s'est pas montré obsolète par rapport aux demandes de la population. Nous aujourd'hui, notre système est obsolète par rapport aux demandes de la population. En Angleterre aussi, enfin au Royaume-Uni, en Allemagne aussi. Enfin voilà. Donc on verra à l'avenir.
Donc, ça n'est que les souffrances de l'accouchement.
Voilà, absolument. Donc je vous remercie bien sûr pour avoir suivi cette émission. Voilà, parfois on peut avoir l'air un petit peu alarmiste, mais je trouve que en fait on dénote une très bonne chose. Voilà, ce serait une très bonne chose d'avoir justement une attaque sur notre dette française pour tous les choquer et tous les foutre dehors.
Et s'en débarrasser,
j'espère ad vitam. Et donc j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette émission, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sur l'Institut des Libertés.